Chapitre 13. Dans le regard des autres. Un malheur, c'est une fange glacée, une boue noire, une escarre de douleur qui nous oblige à faire un choix, nous y soumettre ou la surmonter. Boris Cyrulnik. 1. Je m'appelle Claire Carlyle. Je dois avoir 15 ou 16 ans. Tout dépend en fait du nombre de jours pendant lesquels je suis resté enfermé dans cette prison. 200, 300, 600. Impossible de le savoir vraiment. De ma cellule, je ne vois pas la lumière du jour. Je n'ai accès à aucune horloge, à aucun journal ni poste de télévision. La plupart du temps, je vis dans un brouillard d'anxiolytique. Tout à l'heure, d'ailleurs, avant de partir, je pense qu'il s'apprêtait à sortir parce qu'il portait une grosse veste doublée et une écharpe. Il est venu me faire une injection dans le bras. Avant, il me donnait des cachets, mais il a fini par s'apercevoir que je ne les avalais qu'une fois sur deux. La piqûre m'a fait mal, parce qu'il était nerveux et agité. Il transpirait, il jurait, il clignait des paupières sans arrêt. Il avait le visage creusé et les yeux fous. J'ai poussé un cri à cause de la douleur, ce qui m'a immédiatement valu une gifle et un coup de poing dans le thorax. Excédé, il m'a traité de sale petite pute. Puis il a retiré l'aiguille et a quitté la pièce en claquant la porte. Comme il ne m'avait pas enchaîné, je me suis recroquevillé dans un coin de ma cellule, sous ma couverture sale. Il fait un froid de chien. J'ai mal aux os, la morve au nez, la tête en feu. Malgré le système d'insonorisation, il me semble entendre la pluie. Mais c'est impossible, alors peut-être que la pluie ne tombe que dans mon crâne. Allongé au sol, j'attends que le sommeil m'emporte, mais il ne vient pas facilement. La faute à une chanson qui joue dans ma tête, Freedom, un air d'Aretha Franklin. J'ai vraiment essayé de la faire taire, en vain. Quelque chose cloche. Je ne sais pas quoi, il me faut encore une éternité pour comprendre. Il a oublié de verrouiller la porte. Je me lève d'un bond. Depuis que je suis prisonnière, un tel oubli ne lui est arrivé que deux fois. La première, ça n'a servi à rien. D'une part parce que j'étais menotté, d'autre part parce qu'il s'en est rendu compte presque immédiatement. La deuxième fois, j'ai pu sortir dans le couloir et remonter un escalier en béton ciré qui menait à une porte protégée par un code d'accès. J'ai rebroussé chemin parce qu'il était encore dans la maison et que j'avais peur qu'il m'entende. Mais là, il était sur le point de partir. J'ouvre la porte. Je longe le couloir et je monte les marches au pas de course. Je place mon oreille contre la porte. Il n'est pas là, j'en suis certaine. Je regarde le boîtier qui luit dans l'obscurité, invitant à taper le code. Mon cœur se déchaîne dans ma poitrine. Il faut que je trouve. En regardant la taille du petit écran rectangulaire et les nombres qui s'affichent lorsqu'on presse les touches, je conclus que la clé d'entrée ne doit pas dépasser 4 chiffres. Comme le code PIN d'un portable. Je tape des suites au hasard. 0, 0, 0, 0, dièse, 6, 6, 6, 6, dièse, 9, 9, 9, 9, dièse, etc. Puis je me dis que 4 chiffres, c'est parfait pour une date. Je me souviens de ce qu'il m'a affirmé un jour. Notre rencontre a été le plus beau jour de ma vie. Ça m'avait donné envie de gerber. Ce qu'il appelle notre rencontre est le jour où il m'a enlevé. Le 28 mai 2005. Sans y croire tout à fait, je tape 0, 5, 2, 8, dièse. Puis je me souviens qu'en Europe continentale, les dates s'écrivent en mettant les jours avant les mois. 2, 8, 0, 5, dièse. Mauvaise pioche. Pas surprenant. Le plus beau jour d'un psychopathe de ce calibre ne peut être qu'un jour qui se réfère entièrement à lui. Un jour qui lui soit consacré. Et si... comme un petit garçon, il avait tout simplement choisi son anniversaire. Un souvenir. Un soir, quelques semaines après mon enlèvement, il a débarqué dans ma chambre avec un gâteau. Une forêt noire, sèche et cramée, nappée d'une crème écœurante. Il m'a forcé à la manger jusqu'à me faire vomir. Puis il a ouvert sa braguette et m'a réclamé son cadeau d'anniversaire. Pendant que j'étais à genoux, j'ai aperçu la date sur le cadran de sa montre. Le 13 juillet. Puis j'ai vomi à nouveau. Je tape les 4 chiffres. 1, 3, 0, 7. Puis je valide, dièse. Et la porte s'ouvre. Cette fois, mon cœur menace de lâcher. Je n'ose y croire. Je m'avance dans une pièce sombre, sans prendre le risque d'allumer une lumière. Tous les volets sont fermés. Toutes les fenêtres sont closes. Il n'y a aucun bruit, à part celui de la pluie qui s'abat sur le toit et les vitres. Je n'essaie même pas de hurler. Je n'ai aucune idée d'où je me trouve. Une habitation isolée, bien sûr. À de très rares reprises, il m'a permis de faire quelques pas dans une sorte de pâturage clôturé derrière la bâtisse. Mais dans quel endroit de France? Et à proximité de quelle ville? Je n'ai même pas le temps d'explorer la maison que déjà j'entends un bruit de moteur. Étrangement, je suis très calme à présent, même si j'ai bien conscience que cette chance ne se représentera jamais. Les médicaments engourdissent mon corps et mon esprit, mais je ne vais pas m'écrouler. Du moins, pas encore. L'adrénaline et la peur contrebalancent les effets de l'anxiolytique. J'ai repéré un objet, le premier que j'ai aperçu en découvrant la pièce. Une lampe en bronze qui pèse son poids. J'enlève l'abat-jour et j'arrache le fil électrique. Je me poste derrière la porte alors que je l'entends arriver. Mes sens sont décuplés. Je le devine en train de courir, mais j'entends aussi le bruit du moteur qui continue à tourner. Pourquoi ? Parce qu'il a paniqué. Il a dû réaliser qu'il avait oublié de verrouiller la porte. Et je sais que c'est un peureux, un inquiet, un sans-couille. La porte s'ouvre. Je suis posé. Je n'ai plus peur. J'attends ce moment depuis si longtemps. Je sais parfaitement que je n'ai droit qu'à un coup, qui tout double. J'ai les mains moites, mais je tiens fermement le pied de lampe au-dessus de mes épaules. De toutes mes forces, je le lui abats sur le crâne au moment précis où il relève la tête. Devant mes yeux, le mouvement se décompose comme au ralenti. Je vois d'abord sa surprise qui crispe son visage, puis le pied tranchant de la lampe qui vient lui fendre l'arête du nez, déformant ses traits dans un cri de douleur. Il chancelle, glisse et perd l'équilibre. Je lâche mon arme qui soudain pèse à nouveau une tonne, et j'enjambe son corps. 2. Je suis dehors. La nuit, la pluie, l'ivresse, la peur. Je cours devant moi sans me poser de questions. Je suis pieds nus. Depuis tout ce temps, jamais il n'a daigné me donner la moindre paire de chaussures. Seulement vêtu d'un bas de survêtement étriqué et d'un vieux t-shirt à manches longues. La terre, la boue, la silhouette du pick-up au milieu du chemin, phare allumé. Je fais l'erreur de me retourner. Kiefer est sur mes talons. Mon sang se glace. J'ouvre la portière, la referme, mais une éternité à trouver le système de verrouillage centralisé. Un rideau de pluie dégouline sur le pare-brise. Un coup. Kiefer tambourine contre la vitre, le visage déformé par la haine, les yeux fous. J'essaie de faire abstraction de cette pression. Je regarde le tableau de bord, la boîte de vitesse. Je n'ai jamais conduit de ma vie, mais d'après ce que je crois comprendre, c'est une bagnole automatique. À New York, j'ai déjà vu des femmes chaussées de Jimmy Choo avec des talons de 12 cm et des ongles parfaitement manucurés au volant d'énormes Porsche Cayenne. Je ne suis pas plus bête que... Le choc me fait hurler. La vitre vient de voler en éclats. Mon cœur lâche. Kiefer est allé chercher une barre de fer. Il la lève pour asséner un nouveau coup. Je m'avance sur le siège et appuie sur la pédale. Le pick-up se met en mouvement. Un coup d'essuie-glace. Je suis sur un chemin forestier. Autour de moi, les ténèbres. Des buissons inquiétants, un ciel sale, la silhouette noire d'arbres menaçants. Je suis prudente. Surtout ne pas me planter maintenant. Au bout de 100 mètres, la route boueuse devient légèrement plus large. À droite ou à gauche? Je prends la direction qui descend et j'accélère encore. Quelques virages bien négociés et je reprends confiance. J'allume le plafonnier et je découvre un sac sur le siège passager. Mon sac en toile jaune. Celui que je portais le jour de mon enlèvement. Je n'ai pas le temps de m'interroger sur la raison de sa présence ici, car j'entends un bruit de moteur derrière moi. Je tire le rétro dans le bon angle pour apercevoir Kiefer sur sa moto lancée à mes trousses. J'accélère. J'essaie de mettre de la distance entre lui et moi, mais il se rapproche inexorablement. Le sol est glissant, j'accélère encore. Un autre virage. Cette fois, la voiture quitte la route et heurte un rocher. Je tente une marche arrière, mais le pick-up s'est enlisé. La terreur gicle dans mes veines. Je prends le sac et je sors de la voiture. Mes pieds s'enfoncent dans la gadoue. La moto est à quelques mètres et va me rattraper. Je ne peux pas rester sur le chemin principal. Alors je coupe par la forêt. Je cours, je cours. Les branchages me lacèrent le visage. Les ronces me déchirent la peau. Les pierres écorchent mes pieds, mais cela me fait du bien. Je cours. Pendant quelques secondes, je suis libre. Je suis vivante et il n'y a rien de meilleur au monde. Je cours, je fais corps avec la nature qui m'entoure. Je suis la pluie qui me trempe. Je suis la forêt qui me protège et qui m'avale. Je suis le sang qui pulse dans mon cœur. Je cours, je suis l'effort qui m'épuise. Le gibier blessé, qui refuse la lalie. Soudain, le sol se dérobe. Et je dégringole sur plusieurs mètres, serrant toujours le sac contre ma poitrine. J'atterris sur une route goudronnée, sans aucun éclairage. Je n'ai pas le temps de reprendre mon souffle que déjà j'entends le bruit de la moto qui a retrouvé ma trace. Je fais volte-face pour partir dans la direction opposée. Un virage. Puis soudain, deux phares aveuglants. Le hurlement d'un klaxon qu'on écrase. Une collision. Un grand trou noir. Je ne cours plus.